D'accord, donc j'enchaîne. Donc le numéro des cahiers est celui-là. Juste, c'est pas anecdotique, c'est. Alors faut que je retrouve le. C'est un numéro un peu ancien. C'est que ce dossier s'ouvrait par ce texte-là sur les débats aux cahiers. C'est-à-dire que les cahiers pédagogiques avaient été saisis par Françoise de cette problématique-là. Et que ça avait, bon, l'époque était aussi un peu tendue à ce moment-là en interne, donc, mais ça avait provoqué un certain nombre de débats plus ou moins houleux, que j'ai pas revécu très bizarrement après, puisque moi j'ai fait un dossier en 2009 sur les élèves nouvellement arrivés en France, qui s'appelait « Enfants d'ailleurs, élèves en France », j'allais dire qu'il s'est fait dans l'autre versant, c'est-à-dire dans l'indifférence la plus totale. Alors peut-être qu'on me faisait totalement confiance aussi, je ne sais pas. Et j'ai revécu, alors là le symptôme devient un peu plus embêtant pour moi, quand j'ai coordonné le dossier sur les enfants, enfin les élèves roms, tziganes et voyageurs, où j'ai fait un dossier qui fait 450 pages, et je l'ai fait sans filer, quoi. C'est-à-dire la rédaction ne s'est pas positionnée, en tout cas, ou ne m'a pas questionné sur l'objet. Je suis même pas tellement passé en comité de rédaction où on a pesé les entrées possibles, etc. Donc, je vais me présenter à travers ces quelques diapos. Enfin, je vais présenter plutôt là où je suis aujourd'hui. Donc, je suis Régis Guyon, je suis professeur d'histoire-géographie. Dans ce que je vais vous dire, ça a beaucoup d'importance. Ça, c'est par là que j'ai commencé, et ce que, comme l'a dit Anne-Marie, qui n'est plus là, non. Comme l'a dit Anne-Marie, ce que je suis quand même encore un petit peu, hein, malgré tout, et c'est par là aussi que je regarde l'école, par mon expérience professionnelle comme prof d'histoire-géographie. Donc le dossier, donc j'en parlerai toujours en filigrane à un moment ou à un autre de cette problématique des élèves roms qu'on appelle enfants dans les textes, mais que moi je m'obstine à appeler élèves. Donc vous voyez, on repose la dichotomie ou le dilemme entre les deux. Et puis donc le numéro, vous allez retrouver, puisque le numéro n'existe pas encore, il est au stade du bon à tirer. La couverture est celle-ci, donc ça s'appelle des différences impertinentes et des différences pertinentes, vous enlevez le IM ou vous le laissez, avec un sous-titre, le retour sur la question ethnique. Vous allez retrouver donc l'article de Françoise à peu près tel qu'il a été lu, enfin dit là, et puis Fabrice a fait un texte également dans ce dossier, et puis vous allez retrouver le compte-rendu, je fais juste un peu de pub quand même en passage, vous retrouverez un compte-rendu de la journée du 3 octobre qui s'était tenue ici aussi, où Françoise et Fabrice étaient venus aussi, donc on retrouvera une synthèse dans ce dossier-là. Alors comme je l'ai dit, je suis professeur d'histoire-géographie, j'ai un parcours après qui est à la fois atypique et typique, pour moi qui est cohérent mais qui peut paraître complètement incohérent. Puisque je suis, comme vous l'avez vu, rédacteur, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques, c'est-à-dire que ma première démarche comme enseignant a été de me questionner sur... moi j'étais stagiaire à Lyon quand j'étais sortant d'IUFM, et une de mes préoccupations était de me dire comment ça se fait que ce que je prévois de faire naïvement ne fonctionne pas, et ouais, c'est ce que Philippe Mérieux pointait entre le dire et le faire, etc. Allez. Donc c'était ma première démarche de réfléchir et de raisonner autour de ça, et sans abandonner ce qui a été dit depuis au moins le moment où je suis là, ce que Jean-Yves Rochex pointait, sur ne pas abandonner finalement la complexité des objets c'est vers ça qu'il faut tendre, quoi. Et en histoire, la complexité des objets, il y en a beaucoup, et quand on les pose les uns après les autres, surtout. Il y a 5 ans maintenant, j'ai quitté la classe, et je me suis retrouvé au rectorat dans un service qui s'appelle le CASNAV, Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage, de l'Académie de Reims, où j'ai été embarqué, pas à mon corps défendant, mais alors que j'y avais pas vraiment ma place, je suis pas expérimenté ni formé en français langue étrangère, ni en français langue seconde, je suis pas linguiste, je ne suis pas sociolinguiste, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas été formé pour, etc. Donc j'y avais pas ma place, alors vous allez me dire, et puis alors? Bon. Donc je m'y suis retrouvé, j'ai dû assurer un certain nombre de choses. Et ce qui était intéressant de mon point de vue, et c'est ce dont je veux vous parler in fine, c'est que venant de l'extérieur, j'ai regardé cet objet-là qui est l'apprentissage d'une langue en contexte scolaire, de façon extérieure, et non pas comme étant un objet professionnel travaillé. C'est-à-dire, moi, prof d'histoire-géographie, je disais à mes collègues formateurs et aux enseignants qui étaient en classe d'accueil et en classe d'initiation, je suis désolé, mais ce que vous faites, ça m'intéresse, mais en même temps, je ne comprends rien. Je ne vois pas la finalité de la chose. Voilà. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Donc par rapport, alors je veux reprendre aussi l'opposition que Patrick et que j'ai reprise hier un peu à mon compte sur la nature et les origines, puisque avec ces élèves allophones, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui, hein, les élèves allophones parlant une autre langue que la nôtre, en tout cas que la langue majoritaire, ou en tout cas la langue que l'école, ou en tout cas la langue de la République, hein, puisque officiellement la République a une langue, hein, qui est le français, c'est dans son article premier. Entre cette nature, cette origine qu'on peut lire à plusieurs niveaux, hein, l'origine de ces élèves, l'origine de la difficulté et voilà, la compréhension qu'on a de ces situations et la nature, c'est-à-dire c'est quoi la difficulté, comment je rentre dans le cœur de l'objet pour accompagner et aider. Hein. Et ça va de pair parce que je pense que depuis 3 jours, c'est des choses qui sont travaillées de cette manière-là. Moi, je vais l'exprimer comme ça. C'est que un autre regard qu'on peut porter entre nature et origine, c'est aussi entre ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire quelle compensation je vais apporter. Donc ce sont les dispositifs. Je vais très vite, mais Patrick Rayou en a sans doute parlé, j'étais pas là lundi, et le phénomène d'externalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un dispositif pour élève primo-arrivant ou élève allophone est une façon aussi d'externaliser quelque chose qui devrait aussi se passer dans la classe. Alors selon les lieux et les territoires, à Lyon c'est pas comme enfin sur le Rhône c'est pas la même chose que dans l'Isère, et c'est encore différent dans l'Académie de Reims, et c'est différent en Seine-Saint-Denis que du Val-de-Marne, et encore différent dans les Yvelines par rapport à Paris. Et je parle pas de Toulouse. D'accord? Donc entre cette nécessité, parce que par l'itinéraire de l'enfant, de l'élève, il y a une nécessité à un moment, parce qu'il y a une particularité qui est évidente, une singularité qui est évidente, d'apporter une réponse adaptée. Et en même temps, cette compensation qu'on apporte pose toujours question. Moi, j'avais des élèves qui restaient 3 ans en dispositif. C'est-à-dire que pendant 3 ans, ils n'avaient pas une scolarité normale. Alors, ils avaient d'autres difficultés, parce qu'ils devaient en plus changer d'établissement quand ils étaient pris en charge dans le dispositif. Donc, jusqu'à 3 ans. Donc, 3 ans, quand on arrive d'âge collège, hein, je parle essentiellement de mon expérience de collège. Donc, quand on arrive en collège, 3 ans, c'est le collège quasi dans son intégralité, avec les problèmes que ça pose en fin de troisième. Donc, ça peut poser en fin de troisième. Quand on n'a pas une scolarité comme les autres, ou on n'a pas eu de LV2, par exemple, parce que, bon sang, ils ne pourront pas suivre, puisqu'ils ne sont pas capables d'eux. Donc, très vite, vous voyez, on arrive sur la compensation, on arrive sur le handicap socioculturel, on arrive sur ils ne sont pas capables d'eux, et tant qu'ils ne sont pas capables, de toute façon, moi, je ne les veux pas dans mon cours de maths. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je n'ai pas de solution par rapport à ça. Il y a des dispositifs, ou en tout cas des organisations, des prises en charge qui font que c'est plus ou moins... Les palliatifs sont suffisamment nombreux où ça, c'est pas trop possible. Mais même quand on creuse... Alors, l'exemple typique par rapport à ça, c'est Paris pour moi, parce que Paris, c'est énormément d'élèves. C'est 1800 élèves par an qui arrivent. Pas qui sont pris en charge, qui arrivent. Hein, 1800 élèves, alors, de 6 à 16 ans. Hein, et on peut compter les plus grands aussi... parce que il y a des prises en charge pour les plus grands aussi. Mais à Paris, par exemple, moi j'avais une image assez idyllique de la chose en me disant sur l'Académie de Paris, quand un élève est pris en charge, il va dans un dispositif fermé, avec une classe d'accueil en collège, et puis il est inscrit en même temps dans une classe du collège, la 5e 3, et puis progressivement il va pouvoir aller très vite en EPS, très vite, alors les profs de PS vont râler parce que non, c'est pas si simple que ça l'EPS, hein, c'est pas du sport. Qu'il y a bien d'autres choses à l'œuvre, et puis ils vont pouvoir aller en maths dès qu'on sent que c'est bon, etc. Et progressivement, l'emploi du temps, il y a 2 emplois du temps parallèles qui se mettent en place, et puis il y en a un qui est amené à disparaître progressivement, et donc l'intégration a eu lieu, l'intégration scolaire a eu lieu. Hein. Sauf que j'ai appris, puisque j'ai mené, alors c'est pas grâce, ou c'est peut-être à cause de Françoise, une petite enquête pour le compte de la Commission européenne sur la prise en charge des élèves allophones. En creusant un tout petit peu, on s'aperçoit qu'à Paris, en fait, il y a un dispositif en amont qui s'appelle FLE-I, hein, le FLE intensif, où tous les élèves arrivants sont pris en charge pour une durée brève de quelques mois, fermés totalement, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec l'école et l'environnement scolaire. Et une fois qu'ils sont entre guillemets dégrossis, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'exprimer et de comprendre à l'oral, et ça va très vite, hop, ils changent de structure. Donc ce qui fait qu'en classe d'accueil, dans le mécanisme que je viens de vous décrire, on a des élèves francophones jusqu'à un certain point. D'accord ? Donc les collègues n'ont pas à... Il y a un certain nombre de choses qui sont déjà passées. Donc ça change un tout petit peu la donne par rapport à ça. N'empêche que le mécanisme est intelligent, hein, dans l'organisation. Moi, dans mon académie, je désespérais que ça ne puisse pas s'organiser au moins à un endroit comme ça. Voilà. Donc le versant de ça, c'est la compensation, et l'autre versant, c'est la reconnaissance. Donc le dévoilement. Donc là, on vient de le faire un tout petit peu, chacun un petit peu à sa manière, on se dévoile. Et la reconnaissance peut être interprétée de mille manières différentes. Ce mot-là, hein, je reconnais la différence, je ne suis pas indifférent aux différences, ou les différences sont pertinentes, ou en tout cas, elles structurent. Et d'un autre côté, je reconnais moins, et j'adapte moins, et je me reconnais dans ce que je vois, dans la diversité des situations. Donc, et ça, c'est un objet un tout petit peu plus compliqué, parce que quand on parle de reconnaissance, on l'a un petit peu vu dans les débats hier quand même, on part ou comme l'a suggéré quand même aussi Françoise, qu'est-ce qu'on doit reconnaître dans l'individu qu'on a en face de soi, le fait qu'il soit musulman, le fait qu'il soit allophone. Je peux vous assurer qu'il y a des enseignants qui ont des élèves allophones dans leur cours et qui ne le savent pas. Au bout de quelques mois, ils découvrent qu'ils ont un élève non francophone dans leur cours qui est arrivé soit à la rentrée, soit en cours d'année. Et je vous assure que ça existe. J'en fais pas une généralité non plus, hein, mais ça existe quand même. Donc qu'est-ce que je dois reconnaître ? Voilà. Est-ce que c'est l'origine, l'appartenance, ou l'origine supposée, l'appartenance supposée ? Avec la double difficulté, c'est pour ça que je vais prendre l'exemple, pas tant des voyageurs, des enfants du voyage ici, parce que là, il y a... une espèce d'une injonction à la tolérance, ou en tout cas à la dérogation, c'est-à-dire qu'on accepte une déscolarisation ou une absence de scolarité pour un certain nombre de familles, parce qu'on sait très bien que, alors qu'on tient, on peut pas tenir ce discours-là, officiellement je le fais, je suis enregistré, mais normalement on ne doit pas tenir ce discours-là, mais l'institution s'en arrange. J'ai un certain nombre de preuves, d'entretiens, tout va bien, des inspecteurs d'académie, il n'y a pas de souci. On s'en arrange parce que on ne saurait pas quoi en faire. Enfin, on pense qu'on ne saurait pas quoi en faire. Hein, voilà. La question du dévoilement de la reconnaissance, je prends donc l'exemple des Roms. Moi, j'ai travaillé donc. Peut-être que Véronique Sigaud qui est là pour en témoigner, puisqu'on a travaillé dans le même collège à côté de Troyes, dans la banlieue de Troyes, où à partir de 2000 est arrivée une forte communauté rome. Mais voilà, on est 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, mais les Roms qui sont arrivés à Troyes, et qui sont arrivés à Besançon, qui sont arrivés à Béziers, qui sont arrivés à Lyon, qui sont arrivés à Marseille à ce moment-là, et en banlieue parisienne, c'est le Kosovo, c'est la guerre du Kosovo, c'est des réfugiés politiques. Qui sont passés à l'OFPRA, qui sont passés à la CNDA pour certains, qui sont réfugiés politiques, qui sont français pour beaucoup aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont arrivés à cette époque-là. Et on les a vus arriver. Alors moi, je suis arrivé dans le collège, comme on est arrivé la même année au collège. L'histoire était déjà en route. Et dans cet établissement-là, il y a eu une phase de d'indifférence à cette singularité. Qu'est-ce que ça change ? Ou d'ignorance, parce que ça va de pair. On ne sait pas. Les noms de famille, je peux les dire, c'est pas très important. Ramadani, Dibrani, Cuny, ça parle pas. Les prénoms ne parlent pas non plus. Ça se réfère a priori à des noms musulmans, à des prénoms musulmans par contre. Mais on n'a pas de grille d'analyse par rapport à ces prénoms. C'est un peu... voilà. Et au fur et à mesure, il y a un dévoilement qui s'opère où le mot « rom » commence à circuler dans l'établissement. Et à ce moment-là, alors j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, et à partir de là s'enclenche un mécanisme qui fait appel à une grille de lecture fantasmée, où voilà, ah, c'est des Roms, ah ouais, d'accord. Et là, le cinéma, Tony Gatliff, Kutsurisa, on a voilà toute cette littérature. Je parle même pas du jazz manouche, alors que ça n'a rien à voir. Si vous écoutiez un concert de Roms, de musique Roms, c'est alors je précise, puisqu'ils sont musulmans aussi, mais qu'ils sont soufis surtout, et qu'ils ont un rapport cyclique, et ils tendent à l'ivresse dans les keïtas, puisque c'est des salles, c'est pas des salles de, c'est des salles de prière, mais qui ne sont pas des mosquées à proprement parler. Il y a des prêches, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a surtout ces cérémonies très impressionnantes où on tourne, où on se transperce avec des épées, où, etc. Et on tend à l'ivresse. Et c'est très impressionnant à voir. Ça n'a pas de rapport avec ce que je dis. En même temps, ça a totalement un rapport. Parce qu'on est dans des capacités de mémorisation, dans des récits qui sont en construction permanente, où on est capable, dans ces cérémonies-là, de raconter des histoires à l'infini. On est Homère, je reprends cet exemple-là, c'est l'Odyssée. On est capable de raconter, c'est les bardes, c'est... On est dans un univers balkanique où je fais pas le rapport avec Kadaré, Ismaël Kadaré, mais on est aussi dans cet univers-là, des bardes, des bergers, où on raconte des histoires à l'infini, et on invente et on réinvente l'histoire en permanence. Je fais la référence à Homère, parce que Homère viendrait, ou en tout cas les récits viendraient de ce coin-là aussi de la Grèce. Hein. Donc on est dans une région... et l'Empire ottoman est venu... avec l'islam soufi, est venu se superposer avec ces traditions-là. Et en plus, en dessous ou au-dessus, c'est comme on veut, on est sur des cultures roms. D'accord ? Et là est venu se greffer, mais on pourrait faire exactement la même analyse avec les enfants du voyage, l'idée que fils du vent, donc ça veut dire rapport à la règle, je viens, je viens pas, je fais comme je veux. Oralité, on en a parlé un tout petit peu, j'ai beaucoup apprécié comment Marcelin Appara a parlé de l'oralité hier. Oralité, ah bah alors donc, incapacité à rentrer dans l'écrit, etc., etc. Puis après, on rentre dans des trucs, rapport cyclique au temps, rapport cyclique à l'espace, etc. Donc ça explique un certain nombre de comportements, etc. On naturalise complètement une situation qui ne le méritait peut-être pas. Pourquoi ? Et peut-être que si, je sais pas, hein, j'ai pas... Et en tout cas, la réponse en tant qu'enseignant ou en tant qu'établissement devient extrêmement problématique au fur et à mesure. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc on est en 2012, ça fait la guerre, c'était 99. Aujourd'hui, on a toujours des familles qui arrivent, donc on a toujours des nouveaux arrivants. Il y a dans la ville de Troyes, dans la classe d'accueil, un groupe rom, c'est-à-dire qu'il y a un groupe spécifique de primo-arrivants, de nouveaux arrivants rom. Que les collègues appellent, alors j'adore cette expression-là, faux débutants. Voilà. Et faux débutants, ça doit correspondre à une grille en fleu, mais faux débutants, mais voilà, le groupe est ethniquement bien marqué, c'est 100% Roms, les noms de famille, moi je les vois, ça me parle immédiatement. Et dans le collège, il y a plus que 3 SECPA sur l'agglomération, le collège c'est 60-70% de Roms. Et en plus, avec quelques manouches, j'allais dire, qui traînent par là. Et voilà. Donc, alors que, a priori, dans l'orientation des élèves vers la SECPA, a priori, c'est pas possible. Surtout, j'ai dit, il y en a plusieurs, hein, de SECPA. Il n'y en a pas qu'une. Donc, il y a une sectorisation qui n'est pas la même. Ça ne fonctionne pas pareil, les affectations. Donc, ça pose... Alors, en tout cas, ça pose question aux enseignants. Hein. De qu'est-ce qu'on construit quand on construit ça? Ou quand on laisse faire? Ou quand on s'en dédouane et que ça arrange? Et ça rend la pratique des enseignants bien périlleuse. Je ne parle pas du taux de réussite au CFG. Hein. Je parle de la pratique au quotidien de travailler, de faire apprendre, de rentrer dans des apprentissages. Alors, je m'égare un tout petit peu, parce que c'est pas forcément vers là que je voulais tendre, mais n'empêche que c'est pour moi très important. Je vais revenir à ces... quand je parle de dévoilement, de reconnaissance, c'est-à-dire que quand on dit ça, on a reconnu qu'il y avait ça, cette situation-là, Et quelque part, alors c'est une des parties du dossier de la revue, la fin de l'invisibilité. Donc, les choses ne sont plus invisibles, du coup, puisqu'on le sait, on en parle. Et à partir de là, c'est voilà, ils sont musulmans. Voilà, à partir de ce moment-là, au niveau didactique de mon enseignement de l'histoire, je prends mon cas très personnel, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça change, ou qu'est-ce que ça change pas. Alors, je vais revenir à mon expérience professionnelle à travers les CASNAV, où je me suis décrit comme arrivant absolument hors sujet, pas tout à fait, mais en tout cas hors contexte. Et je vais revenir à ce qui était dit par Marceline Lapara en particulier, mais qui était déjà indiqué par Jean-Yves Rochex la veille, sur le fait que moi, enseignant d'histoire, le rapport, le questionnement que je me suis coltiné sur la langue, sur c'est quoi enseigner l'histoire-géographie au point de vue de la langue, fait que autant à un moment, je vais un peu répondre à ce que, au questionnement que j'ai, par là, que je viens de poser. L'enseignement de l'histoire est a priori un enseignement qui peut paraître intéressant parce que fait appel à une sorte de curiosité qui n'a rien d'évident. La curiosité n'est pas innée, hein, qui est basée sur du récit. Pour un certain nombre de passages obligés, en tout cas, il y a du récit, qu'on le veuille ou pas, il y a du récit. Mais qu'en même temps, la première analyse que j'ai faite, c'est que les élèves non francophones, lorsqu'ils entrent dans les apprentissages à l'école, il y a deux disciplines qui résistent très longtemps, voire irrémédiablement. C'est l'histoire géo et la SVT. À Paris, quand je vous ai décrit le fonctionnement des intégrations, en mathématiques, les élèves y vont assez vite. J'allais dire, quel que soit leur niveau, j'exagère un petit peu, mais ils y vont relativement vite. En revanche, l'histoire géo comme la SVT, qui ont a priori des disciplines a priori qui n'ont pas grand-chose à voir, mais on va voir que ça a en fait énormément à voir du point de vue de la langue, c'est des disciplines qui résistent. Et alors il y a un élément, et on en a parlé un petit peu avec Fatia hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur le fait qu'il y a des références au point de vue des connaissances, en tout cas, qui pose problème, c'est-à-dire qu'au collège, en tout cas, on fait référence à de l'implicite, du savoir implicite, quoi. Jules César, évidemment, quoique. Voilà. Astérix, quoique. Bon, il y a des références, peut-être qu'il n'y a pas à re-rentrer dans une boîte où on présuppose qu'il y a des choses qui sont sues. Je dis, peut-être. Ça n'a rien d'évident. Toujours est-il que quand on... Donc nous, le travail qu'on a fait, enfin le travail que j'ai fait avec un collègue au CASNAV, c'est de regarder... Alors on n'a pas les moyens de l'IFE pour aller filmer les classes, prendre le temps de scruter, de décortiquer, d'avoir l'analyse. Voilà. On a regardé les cahiers des élèves, nouveaux arrivants, en histoire, et les manuels. Hein, avec la précaution que le manuel n'est pas... comme ça, c'est pas comme ça qu'on enseigne, mais c'est une référence, comme le programme est une référence, et le cahier est en tout cas, et en histoire géo pour l'avoir fait pendant un moment, et quand on regarde un manuel et un cahier d'élèves, il y a des différences évidentes, mais ça ressemble quand même pas mal. Donc c'est bien révélateur d'une pratique, ou en tout cas la trace écrite, les documents, en tout cas ressemblent beaucoup à certains manuels. Voilà. À certains manuels qui ressemblent beaucoup à des cahiers, hein, où il y a une trace écrite à gauche ou à droite, et puis des documents sur l'autre page, et voilà. Bon, il y a des manuels qui sont encore plus compliqués que ça. Donc la première chose qui nous a frappé, et c'est pas forcément là qui est le plus important, mais quand même, c'est l'abondance des documents, de nature différente. Et on ne fait plus aujourd'hui fabriquer aux élèves, ou en tout cas j'espère, les documents, c'est-à-dire à un moment on faisait construire des courbes, on faisait construire des diagrammes, on faisait construire et puis on les faisait commenter. Puis on avait tellement plus de temps pour faire commenter que finalement on passait une heure, trois quarts d'heure à faire une courbe, qu'on passait cinq minutes à commenter alors que c'était ça qu'il fallait faire. Et puis alors que poser du crayon a du sens, mais bon, je ne sais pas si c'était ça à ce moment-là pour moi en collège le plus important. Cette abondance elle va de pair avec sa variété. On a des cartes, on a des textes, on a des textes de différentes natures, on a des textes historiques pour l'histoire ou des textes de la presse ou géographiques pour la géographie. Et on a des textes qui sont d'autres natures. La leçon, telle que les auteurs du manuel l'ont rédigée, n'est pas un texte historique. On a le chapeau, on a la problématique qui est posée, on a les titres, on a les titres des documents. Bref, il y a une grande variété de textes. Donc, il y a des courbes, il y a des graphiques, il y a des reproductions d'images, il y a des photographies, etc. Il y a même, et c'est même pire, ça c'est un truc que j'ai jamais pu supporter dans les manuels d'histoire, il y a même des dessins reconstituant des scènes, de la préhistoire, par exemple, même si la préhistoire n'est pas au programme au collège, mais on peut retrouver ça avec le Moyen-Âge, etc., où on a un chevalier qui fait 1m80, alors que c'est... Bon, à part François Ier, qui était très très grand, mais justement, il était connu, alors il n'est pas au Moyen-Âge, on est d'accord, mais il est issu... il était très très grand, parce qu'on sait par son armure, mais il était tout petit, hein. Voilà. Enfin, tout petit, il était... En tout cas, plus petit que cette image-là, hein, en général. Et ceci a de l'importance parce que ces natures de documents font que chacun a une complexité différente. Et le questionnement, je vais y revenir après, mais le questionnement qu'on porte sur ces documents-là pose énormément de problèmes. C'est qu'aucune réponse n'est écrite nulle part, explicitement. C'est toujours par déduction. Et parfois, il faut croiser, hein, on a 2, 3, voire 3 documents à regarder pour répondre à une question. Et la réponse attendue est une réponse argumentée. On l'a vu hier après-midi. Argumentée. C'est pas oui-non. C'est pas du QCM. On va demander de dire ça parce que ça. Donc, avec preuve à l'appui, j'allais dire. Bon. Donc ça, c'est un troisième point. Autre point suivant, c'est la... Alors, je vais essayer de faire mon linguiste en herbe, et vous me coupez quand je dis n'importe quoi, mais c'est ce qu'on avait essayé de signaler, c'est la surreprésentation de procédés de substantivation. C'est raté, voilà. Je savais que j'allais le rater, je l'ai répété hier soir plein de fois. Et c'est-à-dire que les verbes et les adjectifs sont toujours repris par un nom. Les verbes, en histoire en tout cas, les verbes disparaissent dans les titres. C'est moins vrai en SVT. Hein. C'est pas, absolument pas vrai en sciences physiques, par exemple. Sciences physiques, c'est toujours des verbes d'action. On propose toujours, de façon dynamique et explicite, ce qu'on va faire. Vous allez... Hein, ou c'est... voilà. On est toujours dans ces verbes-là. En histoire géo, on est toujours... dans une abstraction par rapport à un nom où on va poser un concept. Alors je l'ai mal dit, mais c'est ça l'idée. On va d'emblée poser un concept. La mondialisation, la déforestation. Alors mais les exemples, elles ne sont pas très bons, mais... non, mais oui, par rapport à la complexité, mais par rapport au mécanisme, c'est pas les bons mots. Mais en tout cas, on fait disparaître à la fois le verbe, et ce qui est encore plus compliqué en histoire géo, et c'est la même chose en SVT, c'est qu'on fait disparaître bien souvent aussi le sujet. C'est-à-dire qu'on va tout mouliner au mode passif. Le mur de Berlin a été détruit en 1989. Il n'y a plus de sujet, on ne sait pas qui. Et d'ailleurs, c'est peut-être le sujet de la phrase, le sujet de l'étude. Qui a procédé à la destruction du mur de Berlin? Il n'y a pas une seule bonne réponse de toute façon. C'est un faisceau de phénomènes qui a conduit que ce jour-là, poum, c'est tombé. C'est ça qui est intéressant. Mais du même coup, dans la langue qu'on utilise en classe, et pas simplement à l'écrit, en classe. Les invasions barbares, l'Empire romain a été, etc., etc. Bref, dans toutes ces formulations, alors je vais pas faire du lapara qui n'en est pas, mais c'est des petites choses comme ça qui cumulaient. Alors j'en ai pas fini, il y a la voix passive. Alors la voix passive, en histoire, on s'arrête là. Parce que quand on fait un schéma, effet, cause-conséquence, etc., c'est souvent quand on fait... c'est assez logique. Enfin, c'est logique. Ça a une logique. En SVT, quand on fait les cycles, hein, la nature, etc., on utilise la voix passive, a été mangé par. Et alors là, on ne parle pas que des élèves nouvellement arrivés. Hein. Pour comprendre le mécanisme et comprendre le verbe qui est dans la flèche, l'exemple qu'on nous a donné hier sur l'argumentation avec une professeure de lettres exceptionnelle qui parle de l'argumentation comme elle le fait, un professeur d'histoire pourrait dire c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que l'argumentation en histoire sera peut-être pas exactement la même chose qu'en lettres, parce que l'exercice n'est pas tout à fait le même. Parce que c'est très compliqué ce qu'on demande aux élèves en troisième au brevet des collèges, parce qu'ils doivent argumenter, mais en plus ils doivent s'appuyer sur leurs connaissances qui ne sont présentes nulle part, et en même temps sur des documents qu'on leur propose et sur lesquels on les a questionnés. Où il n'y a pas la réponse explicitement, mais en tout cas les a questionnés. Et qu'est-ce qu'on suggère implicitement ? C'est que les élèves vont avoir une suite de réponses à des questions qui, s'ils sont pas trop mal faites, et c'est la perversion de la chose, sont dans un certain ordre par rapport à une question posée. Puisque le paragraphe argumenté, c'est répondre à une question. Montrer que la Première Guerre mondiale est une guerre totale. Et beaucoup d'élèves font scolairement, essayent de faire au mieux qu'ils puissent, et vont reprendre les réponses qu'ils ont données dans la première partie. Et ils vont répondre à la question en reprenant leur réponse, en habillant ça un petit peu autrement, parce qu'on leur a dit que c'était pas ça qu'il fallait faire. Mais du même coup, ils mettent pas des connaissances qu'ils doivent mobiliser dans un cours. Enfin, vous voyez ce qu'on leur demande de faire. Et je parle même pas de l'expression écrite, parce que j'en ai même pas trop parlé là, mais qui est déterminante dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences, et puis mes collègues de Besançon ont fait aussi des expériences avec des copies d'élèves, où on va avoir des élèves nouvellement arrivés qui vont répondre dans un français extrêmement approximatif, voire absolument incorrect. Mais si on lit ça attentivement, on s'aperçoit qu'il y a une pensée, en tout cas qu'il y a des choses, quoi. Il y a de la pensée, il y a de la connaissance, il y a quelque chose, et qui vont assez systématiquement, je ne dis pas systématiquement, mais assez systématiquement, vont se retrouver avec des notes plutôt dévalorisée, plutôt basse, alors que moi j'ai fait l'expérience à mon corps défendant d'élèves qui sont capables de rédiger surtout et n'importe quoi en disant à peu près la même chose à chaque fois, mais dans un français impeccable, hein, avec des connecteurs logiques, tout ce qu'il faut, hein. Mais il n'y a pas une idée dans le truc, il y a un pauvre exemple qui se balade, mais il y a un tel habillage linguistique qui plaît tellement à celui qui lit, je ne dis pas qu'il aura une super note, mais bon. Donc on essaye de faire des grilles pour pas que ça arrive, etc. Mais très sincèrement, je ne suis pas sûr que ce soit très opérationnel. Donc ça, l'avant-dernier point que je voulais soulever par rapport à l'enseignement de l'histoire géo, c'est l'importance de l'abstraction. Et pas simplement par rapport aux notions, c'est-à-dire les outils qu'on utilise ou qu'on fait construire ou qu'on fait commenter. Ça rejoint ce que disait Marceline Appara hier par rapport à la littératie et l'oralité, parce que la géographie est une discipline purement abstraite, c'est-à-dire qu'on utilise une carte qui, quand on y réfléchit deux minutes, je prends la carte, est une représentation du monde qui n'existe pas. Je prends juste l'exemple assez classique. Moi, je faisais travailler mes élèves de 6e sur les planisphères australiens, américains, chinois, européens, africains, etc. Et il n'y en a pas un qui est pareil. Mais le monde est le même. La Terre, une espèce de patate comme ça, plus ou moins sphérique. Il n'y a pas une bonne et une juste représentation de l'espace. Même le planisphère qu'on utilise, qu'on a dans nos salles, c'est une représentation fausse. Quand on compare l'Algérie et le Groenland, normalement, géographiquement, quand on mesure les distances, c'est à peu près la même distance nord-sud. Bah, regardez sur les planisphères que vous avez dans vos agendas ou ailleurs, vous verrez que le Groenland, il est d'une longueur vertigineuse. Alors, généralement, si, sauf si les cartographes ont fait un comme dans le dessous des cartes, où ils essayent de prendre des cartes à peu près en faisant des étirements, etc., des tassements, etc. Voilà. Et c'est systématique, c'est-à-dire que la carte, c'est l'objet abstrait par excellence sur lequel on va commencer à raisonner, et puis on fait des anamorphoses en plus des fois. On fait des anamorphoses, c'est-à-dire qu'on va prendre un paramètre, la densité, n'importe lequel, la densité, l'urbanisation, et la surface du pays sera à la hauteur, en tout cas en proportion de l'indicateur qu'on veut mettre en avant. Donc on va avoir, ressources pétrolières, on va avoir une Europe toute petite, puis on va avoir une Arabie ultra gonflée, quoi. Voilà. Et on va demander à vos enfants, aux élèves, de raisonner là-dessus par rapport à des supports qui en soi déjà sont des objets complexes. Je ne dis pas qu'il faut les abandonner, au contraire. Mais d'emblée, ce n'est pas possible. Voilà. Et comme disait Marceline Apparin, on le fait quand ? On le fait quand, l'anamorphose ? Voilà. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes élèves en 5e, je travaillais beaucoup sur l'échelle. C'est quoi une échelle ? Voilà. En géographie. C'est un truc hallucinant à l'échelle. Et si c'est comme nos ministres, vous n'avez aucune notion de règle par 3, de proportionnalité, vous pouvez pas comprendre. Enfin, si, vous pouvez comprendre, mais le mécanisme, vous avez beau le reproduire, ça va être sacrément problématique. Voilà. Or, le jeu d'échelle en géographie, hein, quand on parle d'une échelle grande, d'une échelle petite, c'est l'inverse. Hein. C'est, la grande, c'est le détail, et la petite, c'est le macro. Et quand on veut travailler sur des phénomènes géographiques à plusieurs échelles, moi je travaille sur l'aménagement du territoire, par exemple l'introduction du loup ou le passage d'une ligne TGV en vallée d'Aoste, par exemple, qu'est-ce que ça provoque à l'échelle locale, l'échelle régionale, à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, continentale, etc. Ça implique pas les mêmes acteurs, ça implique pas les mêmes, etc. C'est ça qui est intéressant, mais si on ne sait pas comment ça se joue, c'est quand même très très compliqué. Parce que du coup, oui, alors ça, il faut que je le dise quand même. Du coup, on se retrouve dans la position du prof d'art plastique qui doit expliquer le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe, parce que c'en est une, mais ce n'est qu'une représentation de cet objet qui a beau être réalisé dans la plus grande finesse réaliste. N'en est toujours pas une. Et on est bien dans une représentation d'un objet. Et en plus, on est en contexte scolaire, c'est-à-dire qu'en plus, l'objet en soi n'est pas intéressant si on ne l'utilise pas pour transmettre quelque chose. C'est-à-dire que la carte, l'outil carte n'est pas intéressant en soi, c'est comme le vélo d'hier, hein. Faire du vélo en soi, ok, bon, d'accord. Mais ça sert à faire des choses. Et dernier point qui n'est pas le moins important, et ça marche très très bien avec les élèves nouveaux arrivants, mais ça marche plein avec plein de situations, c'est l'implicite permanent. Alors j'ai parlé très brièvement de cet implicite-là en parlant des notions qui sont censées être connu en tout cas dans un environnement global, dans la vie de tous les jours. Mais donc voilà, donc l'implicite, c'est-à-dire que quand on fait une leçon, implicitement, on va se référer à plein de choses derrière chaque mot et chaque nom qu'on utilise. Voilà. Et ça vaut pour, alors ça vaut pour l'histoire géo évidemment, parce que là il y a des références en connaissance, mais ça va pour une la littérature jeunesse aussi. Hein. Les ouvrages de jeunesse qui sont, nous on avait travaillé un tout petit peu, en tout cas mes prédécesseurs avaient travaillé un petit peu sur ce sujet-là. C'était de sur les albums jeunesse, entre là où le texte qui est mis sur l'album explicite l'image, hein, le rapport entre l'image et le texte. Les oui-oui, tchoupi, etc. Ces albums-là ont une valeur qui est la sienne, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est dit. C'est quasiment illustratif par rapport au texte. Et puis, il y a d'autres littératures jeunesse ou albums de jeunesse un peu plus intéressants et élaborés où le texte va nourrir, ou en tout cas apporte une information qui n'est pas dans l'image, où l'image n'est qu'un bout de ce qui est écrit. Et il y a même des ouvrages jeunesse, nous on avait travaillé sur Opération Fantôme, où, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'image contredit ce qui est écrit, et ce qui doit donc provoquer soit du sourire, soit du rire, ou en tout cas une perplexité. Et c'est ça, et donc ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un rapport implicite, c'est-à-dire que ça ne marche que si l'implicite est compris de tous. Ou sinon, on reste sur l'explicite premier degré, et là, on se demande qu'est-ce qu'on dit ? C'est n'importe quoi, ce livre. Voilà. Et puis, par rapport à la production des élèves, je le redis un tout petit peu en développant, sur le fait que la réponse attendue, la production écrite des élèves, veut être, elle, explicite, parce qu'elle est attendue, et elle repose sur tout un mécanisme qui fait appel à ces rapports implicites à la langue. Et ça n'est pas beaucoup à, enfin, ça n'a pas beaucoup à voir, c'est comme escargot, parfois, avec l'absence de connaissance. Ça n'a parfois pas grand-chose à voir avec ça. Alors, je vais juste terminer sur... puis je vais m'arrêter, puisque j'arrive au terme du temps imparti. Sur ces questions de dévoilement et... sur le fait que, parce que sur les élèves allophones, voilà ce que je voulais dire par rapport à la langue, le problème après qu'on peut rencontrer, vous voyez bien qu'ils sont de deux ordres. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire comment on organise les choses, ou comment les choses sont organisées, en, je ne dis pas en dépit du bon sens, dans une logique qui n'est pas forcément, dont la finalité n'est pas forcément celle de l'inclusion, ou en tout cas d'une tentative de faire entrer dans un ce qu'on appelle parfois le droit commun de l'école de tout le monde, où finalement, à terme, c'est un élève, c'est l'indifférence, et tout le monde est traité de la même manière. Et d'un autre côté, vous voyez qu'il y a ces petits mécanismes, et je ne parle que pour l'histoire géo, où finalement, on a beau apprendre le français en classe d'accueil, je reviens à mes élèves primo-arrivants, on a beau apprendre le français en classe d'accueil, je pourrais détailler ce que j'en ai comme perception de cet apprentissage du français en classe d'accueil et les problèmes que ça pose, parce que des fois l'objectif n'est pas celui que je viens d'indiquer, mais est sur un français de l'oralité, justement, qui nous a été un peu décrit hier, c'est-à-dire pas forcément inscrit dans un contexte scolaire pour un contexte scolaire, je dis parfois, je prends quelques précautions, mais qu'en tout cas, la question est pour moi finalement par rapport à ces élèves-là, quand ils sont en dispositif, quel est l'objectif ? Quand ils sont dans la classe ordinaire ou dit de droit ordinaire, quel est l'objectif ? Ce sont les mêmes élèves qui passent de l'un à l'autre sur un même temps scolaire, hein, et dont les logiques sont différentes. En classe d'accueil, on fait, pour le faire court, pour ça que je caricature en faisant le lien avec Marcine Lapara, on est davantage dans l'oralité, alors qu'on exige de la littératie en classe. Alors on va me dire, mais c'est pas vrai, peut-être que c'est la jauge, enfin le curseur est peut-être plutôt du côté de l'oralité en classe d'accueil, alors que le curseur est plutôt du côté de la littératie en classe ordinaire. D'accord ? Et donc, du coup, il est très compliqué pour les enseignants et pour les élèves de passer très facilement de l'un à l'autre et de voir que l'un sert à l'autre. Moi, je disais par provocation en formation que finalement, les élèves apprennent le français tout seuls. Je ne rentre pas dans le jeu du bain linguistique. C'est pas ça que je dis. Je dis pas que par le bain linguistique, ils vont tout se passera, ils vont infuser là-dedans et puis vogue la galère. Hein. Évidemment, c'est pas suffisant. Mais la difficulté, et je dis pas que j'ai la réponse, mais la difficulté est bien l'articulation, mais comme tout dispositif, c'est l'articulation, les rasettes sont dans la même difficulté, c'est l'articulation entre le dedans, et Patrick Rayou a dû le souligner, entre le dedans et le dehors, pourquoi la classe d'accueil n'est pas en co-animation à un moment donné, avec les élèves, les enseignants de classe d'accueil ne sont pas en co-animation dans la classe de maths, je sais pas, enfin, pourquoi on ne pense pas aussi les choses comme ça, parfois, c'est comme les rasettes, il ne s'agit pas de dire, ah, ils sont à l'extérieur, donc ils ratent la classe, donc ils ne peuvent pas, etc. Et qu'est-ce qui se passerait si ça, ils étaient, c'est bien c'est peut-être pas la seule et l'unique bonne réponse, hein, mais c'est cette articulation entre ce qui se passe dans la classe et ce qui se passe à l'extérieur, des besoins que les uns et les autres ont en tant que professionnels, enseignants, que les élèves, les besoins des élèves ont en contexte et dans un autre contexte, et c'est ces passerelles-là qui, à mon sens, ne sont pas tellement pensées.